Actes chapitre 3, versets 1 à 8. Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En le prenant et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Nous voilà plongés dans un texte riche en émotions. Ce texte nous parle d'une situation et ce qui se passe mérite notre attention. Il nous parle d'un homme qui était dans ses problèmes, qui était dans ses soucis, un homme qui était écrasé par le poids de la fatalité, sans avoir quelqu'un à qui s'adresser pour résoudre son problème. Nous aussi, il nous arrive parfois. Il nous arrive dans la vie de tous les jours, voilà, d'être confronté à des problèmes, à des difficultés. Parfois, tellement la situation nous semble insurmontable, nous nous laissons parfois écraser par le poids de la fatalité, alors que la solution est autre. On cherche parfois la solution chez les hommes, on cherche à recevoir d'eux un soutien quelconque, mais il nous est impossible de recevoir le soutien dont nous avons besoin. De prime abord, nous sommes en face d'un homme désespéré. Il est désespéré, cet homme. Mais son désespoir va finir par prendre fin. Heureusement. Tout comme dans toutes nos situations où on s'attend à ce que Dieu intervienne. Personne ne souhaite demeurer dans ces difficultés. Je ne vois pas un homme sensé qui se lève le matin en disant « Oh Seigneur, laisse-moi demeurer dans mes difficultés. Toute ma vie, je veux vivre que par les difficultés. » Je ne vois pas. Je ne sais pas vous, mais moi je ne souhaite pas ça. Oui, il peut y avoir des temps de difficultés. Il peut y avoir des temps d'épreuve, mais nous demandons à Dieu de nous venir en aide. Nous soumettons à Dieu notre besoin et c'est lui qui agit selon sa volonté. Donc, à travers ce texte, nous voyons par là quand même une réalité. La réalité également que traverse notre société qui est plongée dans le désespoir. Notre société qui malheureusement est confrontée à une certaine fatalité. Car au regard humain, au regard des hommes, on s'attend à recevoir quelque chose de la part de nos semblables. On s'attend à ce que ceux qui sont autour de nous fassent quelque chose pour résoudre les différents problèmes afin que chacun puisse vivre une vie heureuse. Mais nombreux sont ceux qui croient qu'ils peuvent se satisfaire avec les choses de ce monde, mais ils sont loin de réaliser que la vraie satisfaction ne peut provenir que de celui qui a créé l'homme et qui connaît le vrai besoin, le besoin ultime des humains. Il y a ce que l'homme veut. On a des besoins, on a des souhaits, on a des désirs. Il y a ce que nous voulons. Il y a ce que l'homme veut, Mais il y a ce que Dieu veut pour l'homme. On l'a chanté tout à l'heure, sans ta lumière, voilà, que ferions-nous, que serions-nous, nous qui étions perdus, nous qui étions sous le poids du péché, on ne savait que faire. Il a fallu que le Seigneur nous vienne en aide. Et à cause de cela, il nous a frayé le chemin, il nous montre le chemin, il met dans notre cœur ce désir d'aller vers lui. Mais il n'en est pas de même pour tous les hommes sur la terre. La preuve en est que cet homme, lorsqu'il est dans son besoin, son réflexe n'est pas de s'adresser à Dieu, son réflexe est de se tourner vers les hommes. Se tourner vers les hommes. Cet homme s'attendait à recevoir quelque chose de la part des hommes. Il faut reconnaître que si ce qu'il demandait était ce qui allait le combler, il ne serait pas là jusqu'à ce jour parce que où sa vie va être basculée, parce que cela fait plusieurs fois qu'il est là en train de faire le monde. Et si ce qu'il recevait allait le satisfaire complètement, je vous prie de croire qu'il n'en serait pas là encore, s'attendant à recevoir quelque chose. Parfois, on croit recevoir quelque chose de la part des hommes pour nous satisfaire, mais on ne réalise pas que la vraie satisfaction ne vient pas uniquement du fait de ce qu'on va recevoir. Oui, ce qu'on va recevoir peut nous combler pour un temps, mais ce que Dieu veut, c'est de nous combler jusqu'à l'extrême, pour que nous soyons en débordant de ce qui vient de lui. Connaissant donc le vrai besoin, Pierre lui propose quelque chose de mieux. Vous êtes-il déjà arrivé de demander quelque chose et on vous donne autre chose, quelque chose de mieux? On ne va pas dire non, même si ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. On demande quelque chose, on demande et on nous donne plus que ce qu'on a demandé. Ah, c'est bien ça. Et cet homme ne réalisait pas ce qu'il allait recevoir. Il demande quelque chose, mais il n'était pas en train de réaliser que ce qu'il demandait même n'allait pas le satisfaire. Mais Pierre, lui dit, je te donne quelque chose de mieux. Ah. Mais il fallait quand même qu'il voie. Il dira à l'apôtre Pierre, je n'ai ni argent ni or. Il y a quelque temps en arrière, se sont déroulés au Japon les Jeux Olympiques. Et quelques semaines après, voilà, il y a eu les Jeux Paralympiques. Et tous ceux qui participaient s'attendaient à quelque chose. Je ne vois pas, peut-être, je peux me tromper, mais je ne vois pas quelqu'un qui s'est préparé pendant peut-être des années, pendant des mois, qui s'est bien préparé en se disant « je vais aux Jeux Olympiques », en se disant « je vais juste pour le plaisir ». Je peux me tromper, peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit, mais on se rend compte que tous vont aux Jeux Olympiques pour quelque chose. Pour des médailles. Et pendant ce temps de jeu, on classait les pays en fonction du nombre de médailles reçues. On comparait les pays. Rien que hier, voilà, on montrait le nombre, le pays qui a eu le plus de médailles. Je crois que pour la France, voilà, on a eu 33 médailles. Quelques 10 en or, 11 en argent et 12 en bronze ou quelque chose comme cela. Mais vous voyez, c'est ce à quoi les gens s'attendent. Ils s'attendent à quelque chose de périssable. Et à leurs yeux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que oui, concourir au jeu pour recevoir de l'or, oh là là, oui, c'est du prestige. Et là, l'homme s'attendait à quelques pièces. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Vous savez, plusieurs efforts sont fournis pour s'arracher le maximum de médailles. Mais quel était le besoin de cet homme? Quel est celui de notre génération? Si Pierre lui fait comprendre qu'il ne lui donne pas même ce qu'il demande, ça veut dire que le besoin il était ailleurs. Le besoin n'était pas ce qu'il croyait être. Le besoin, il est ailleurs. Et parfois, nous croyons que notre besoin est ce que nous croyons. Nous pensons. Nous pensons que notre besoin, ce que nous voyons. Mais le Seigneur nous montre, parce que c'est lui qui a créé les hommes. Il connaît le réel besoin et il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Ce que je te le donne, dira l'apôtre, au nom de Jésus. Voilà. Voilà. Voilà ce qui manque à cet homme. Voilà ce qui manque encore aux hommes aujourd'hui. Et je vous prie de croire que on n'entend pas le nom de Jésus à tous les coins de rue. Non, on n'entend pas ce nom-là. Parce que pour le commun des mortels, ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Ils croient qu'ils n'ont pas besoin. Et nous, un jour, on a cru qu'on n'avait pas besoin. Jusqu'au jour où le Seigneur s'est révélé à nous. Jusqu'au jour où il nous a fait connaître notre réel besoin. Je réalise quand même que Dieu qui nous a créés nous connaît mieux que nous-mêmes. Souvenez-vous de cet épisode où cet homme va s'approcher de Jésus dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, il est question de ce jeune homme qui s'est approché de Jésus et il va faire connaître à Jésus quelque chose. Il dira ceci, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aimant, et lui dit, Jésus n'a pas dit, « Tu as tout ce qu'il fallait. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Il te manque une chose. » Et en lisant le texte, on se rend compte que ce dont Jésus parlait n'était pas ce à quoi ce monsieur s'attendait, même parce qu'il était comblé. Jésus parle de ses richesses. Il veut mettre en avant ce qui avait pris le pas dans son cœur au point que les choses de Dieu n'allaient pas pour autant avoir la priorité. Il dira à Jésus, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Va, vends tout ce que tu as. Et la suite nous montre, ce qui avait occupé pleinement le cœur de cet homme, ce qui avait pris le dessus. Et quand nous examinons la vie de nos contemporains, on se rend compte que ces mêmes choses dont Jésus a parlé il y a plus de 2000 ans, ces mêmes choses sont encore d'actualité parce que les hommes courent après cela. Le texte nous dit, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. » Affligé de la parole dont Jésus avait dit, « Va, vends tout ce que tu as. » Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et pourtant, malgré ses biens, Jésus lui dira, « Il te manque une chose. » Il te manque une chose. Ce qui manquait à cet homme, tout comme ce qui manquait celui à qui Pierre s'adressait, c'est ce dont ils avaient réellement besoin. Voyez-vous, je me suis rendu compte, même dans ma propre vie, que parfois j'ai demandé des choses à Dieu, mais le Seigneur m'a montré ce dont j'avais réellement besoin. Ça ne vous est jamais arrivé. Le Seigneur me montre, je demande quelque chose à Dieu, mais il me fait comprendre que non, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Mais moi, je m'entêtais à dire, Seigneur, oui, c'est ça. Non, Seigneur, c'est moi, je me connais quand même. Laisse-moi te montrer ce que je veux. Alors que qui suis-je pour montrer à Dieu ce que je veux? N'est-il pas celui qui connaît le plus profond de mon cœur? N'est-il pas celui qui connaît, qui sait ce qui est meilleur pour moi? Il dira à cet homme, bien qu'il connaissait déjà la réponse de cet homme, pour l'amener à réaliser ce qui avait pris le pas sur sa vie, il dira à cet homme, il te manque une chose. Cet après-midi, il peut nous manquer une chose. Il peut nous manquer une chose. Il peut nous manquer une chose. Revenons au texte avec Pierre et cet homme. Il dira à cet homme, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Ce dont l'homme avait besoin était l'intervention puissante de la grâce de Dieu. Et c'est ce qui manque à notre monde aujourd'hui. Il est rempli de toutes sortes de trésors. Notre monde, notre société est remplie de toutes sortes de richesses. Les hommes courent après ces choses-là sans réaliser leur vrai besoin. Ce qui doit prendre la priorité et encore plus aujourd'hui, vu les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est même pas le fait de résoudre les différents problèmes que nous pouvons avoir sur la terre. Ce dont notre société a besoin depuis la nuit des temps, depuis l'éternité. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus, parce qu'il connaît le vrai besoin de l'humanité, ce dont nous avons besoin encore aujourd'hui et qui perdurera jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est l'intervention puissante de la grâce de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. Voilà la chose qui a plus de valeur. La chose qui a plus de valeur, humainement, lorsque Pierre va s'adresser à cet homme, il est dit qu'il s'attendait à recevoir de quelque chose. Il y avait une certaine foi. Il espérait. Il a mis sa confiance. Lorsque Pierre va lui dire « Regarde-nous », il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Donc, on se rend compte quand même que cet homme avait une certaine foi, parce qu'il voulait absolument être en possession de quelque chose, mais de quelque chose qui n'allait pas le combler, de quelque chose qui n'allait pas le satisfaire. Lui, il croyait que... Mais avec l'intervention de l'Esprit de Dieu dans la vie de Pierre, il a lu dans son cœur son vrai besoin. Il dira, oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom qui sauve et qui transforme les vies. On l'a chanté tout à l'heure. Voilà, j'ai la vie de Dieu en moi. Quand on a la vie de Dieu en nous, il découle un certain nombre de choses. Je reçois son amour, je reçois sa paix, je reçois sa joie. Il y a son esprit qui vient et qui prend le contrôle. Et nous nous rendons compte que malheureusement, encore aujourd'hui, nous, les hommes, courent à la recherche de plein de choses, sauf l'essentiel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Actes au chapitre 4, lorsque cet homme va être puissamment touché, par la grâce de Dieu. Il est dit au chapitre 4 que beaucoup se sont approchés de Pierre et de Jean pour savoir ce qui s'était passé en réalité. Beaucoup se sont approchés pour connaître, pour savoir. Et lorsqu'ils vont interroger Pierre, rempli du Saint-Esprit, déjà au verset 8, il nous dit: Pierre, rempli de l'Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le, et que tout le peuple d'Israël le sache. Écoutez ce que Pierre va dire. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Lorsque les apôtres vont être questionnés, l'apôtre ne passe pas par quatre chemins pour montrer à ces hommes-là même leur réel besoin. Il ne va pas dire, vous savez, écoutez, c'était par ma puissance. Voilà, c'est moi qui ai guéri cet homme. Non, il n'y avait pas cet orgueil dans le cœur de l'apôtre parce qu'il savait d'où provenait la guérison de cet homme. Lui-même, ayant été saisi par l'Esprit de Dieu, il dira à ces gens-là, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui ? Son Fils Jésus. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons là la clé de la liberté. Nous avons là la clé de la délivrance. Nous avons là la clé d'une vie transformée. Ce qui était réservé aux hommes, c'est la condamnation de Dieu à cause de leur rejet. Mais par amour, Dieu envoie son Fils Jésus. L'Évangile, qui est la bonne nouvelle, n'est rien d'autre que le message d'amour que Dieu désire communiquer aux hommes et les amener à cette transformation de vie. Je suis toujours émerveillé de la façon dont Dieu s'est révélé à Paul, cet homme Saul autrefois. Quand nous examinons la vie de cet homme, on se rend compte qu'il ne pouvait y avoir aucun autre moyen par lequel cet homme puisse fléchir le genou devant Dieu. Il a fallu que le Seigneur lui-même intervienne dans sa vie. Il a fallu l'intervention puissante de la grâce de Dieu. Il a fallu que le Seigneur agisse au plus profond de son cœur. Et c'est cet homme-là, après avoir été bouleversé, après avoir été transformé, après avoir été saisi par la puissance du Seigneur, il a réalisé qu'il y avait une puissance dans la proclamation du message de l'Évangile. Quand il va dire « Je n'ai point honte de l'Évangile », c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La foi permet à l'homme d'entrer en possession ce qu'il ne mérite même pas. C'est ça, c'est la foi. Lorsque Pierre va s'adresser à cet homme, il a pu discerner une foi. Même si cette foi n'était pas en celui dont elle devrait être, il y avait cette confiance, puisqu'il est dit, cet homme s'attendait Il avait mis son espoir aux deux qui étaient là. Mais Pierre, ayant vu même le peu de foi qu'il avait, Pierre va l'amener tout doucement à croiser le regard de celui qui pouvait complètement transformer sa vie. Voyez-vous, nous nous rendons compte que la foi d'un homme qui s'attendait à quelque chose de la part des hommes, il lui donne par cette même foi quelque chose venant de Dieu. Dieu désire donner aux hommes une vie meilleure. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 36, le Seigneur nous montre par là que celui qui croit au Fils a la vie, et la plus grande richesse de tous les temps, c'est d'avoir dans notre cœur celui qui est par amour est mort à la croix pour nous. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 13, l'apôtre Jean nous dit ceci. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez, parce que vous croyez, voilà le fruit de votre foi. Vous avez voilà la vie éternelle. La vie éternelle, elle nous vient de Dieu. C'est de connaître Dieu et celui en qui il a envoyé. Et avoir la vie éternelle, c'est placer sa confiance en celui qui a livré sa vie pour tous les hommes. Et de cette assurance, de cette confiance, découle une auto-assurance. Puisque au verset 14, l'apôtre dira ceci, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous avons demandé, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Nous savons. Si le Seigneur nous a communiqué sa vie, combien plus forte raison ne nous viendrait-il pas en aide quand nous sommes dans le besoin? Oui, quand nous sommes dans le besoin, parce que nous croyons, parce que nous avons placé notre confiance en lui, nous avons cette assurance que nous pouvons nous adresser à lui. En conclusion, je veux revenir sur simplement la parole que Jésus a dite à cet homme. Il te manque une chose. Que nous manque-t-il en réalité? Que me manque-t-il en réalité? Que vous manque-t-il en réalité? Voulons-nous simplement en satisfaire nos besoins ou voulons-nous avoir avec nous celui qui peut combler nos besoins? Il y a une différence. Quand nous recevons quelque chose pour être comblé dans nos besoins, c'est pour un temps. Et demain, on fait comment? Et demain, on fait comment? Quand on aura un autre besoin, on fait comment? Alors que si nous avons en nous celui qui nous aime et qui veut nous combler, on sait qu'il connaît par avance nos besoins. Et avec cette confiance que nous avons, nous pouvons en toute liberté nous adresser à lui. Cet après-midi, qui que nous soyons, nous pouvons être dans cette assurance, comme l'apôtre l'a dit, que si nous avons, nous plaçons notre confiance en lui, quel que soit ce que nous demandons, selon sa volonté, il nous le donne. Donc cela veut dire qu'il y a des besoins qui ne sont pas de la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que nous devons de nous laisser conduire par lui, nous laisser éclairer, nous laisser guider pour qu'il nous montre réellement ce dont nous avons besoin. Et puisqu'il connaît le besoin, alors je peux m'adresser avec assurance. On va juste fermer nos yeux. Nous avons nos têtes baissées. Qui que nous soyons, je ne connais pas votre besoin. Mais je peux simplement nous encourager à tourner nos regards vers celui qui ne veut pas simplement nous donner quelque chose, mais vers celui qui veut prendre le contrôle de nos vies. Y a-t-il quelqu'un ? Nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés, nous sommes en intimité devant Dieu, nul besoin de savoir ce qui se passe à gauche et à droite. Que vous manque-t-il cet après-midi ? Voulez-vous vous placer devant Dieu ? Alors que peut-être vous croyez avoir besoin de quelque chose, peut-être que le Seigneur vous dit ce dont vous avez réellement besoin. Puisque c'est lui qui nous le dit, ne détournons pas notre oreille, mais écoutons. Non seulement il sait ce dont nous avons besoin, mais il peut nous combler et il veut nous aider. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie cet après-midi? Nous voulons simplement prier pour vous. Comme dira Pierre, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Nous également, nous croyons en la puissance de Dieu. Et quel que soit le besoin, je vous prie de croire que si nous demandons selon la volonté de Dieu, il agira en notre faveur. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a besoin? Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin de l'intervention, de la grâce de Dieu sur votre vie? Nous voulons simplement prier pour vous et avec vous. Amen. Alléluia. Quel bonheur, Seigneur, de réaliser à quel point nous dépendons de toi. À quel point, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre loin de toi, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Seigneur, si tu n'étais pas venu nous éclairer, que serions-nous, que ferions-nous? Si tu n'étais pas venu nous montrer le chemin, si tu ne nous avais pas communiqué ta vie, quel serait l'aboutissement de l'existence de l'homme? Cet après-midi, ta parole nous rappelle encore combien tu désires envahir le cœur, notre cœur. Combien, Seigneur, tu n'es pas là uniquement pour combler nos désirs, mais tu es là, Seigneur, pour nous entraîner dans une relation avec toi. À cause de cela même, Seigneur, je te prie maintenant. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ma sœur, qui est dans le besoin et qui s'attend à toi. L'apôtre dira, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est en ce nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous voulons, Seigneur, confesser, proclamer, et c'est à travers le nom de Jésus, Seigneur, que nous invoquons et nous te demandons d'agir en sa faveur. Nous ne connaissons pas son besoin, mais toi qui lis au-dedans des cœurs, agis en sa faveur. Seigneur, si elle manifeste, Seigneur, son désir, c'est qu'elle elle sait que tu es capable de lui venir en aide. Seigneur, je te prie de la visiter, de la renouveler. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Peut-être que d'autres, Seigneur, non, ne se sont pas manifestés. Cela n'empêche pas, c'est vrai, Seigneur, qu'ils placent leur confiance en toi. Je te prie, au milieu de nous, étends ta main. Manifeste-toi, quel que soit le besoin, que ta volonté soit faite, Seigneur. Quel que soit le besoin, un physique, un Seigneur, un matériel, un Seigneur, mon Dieu, interviens, tu es celui qui connaît tout et qui peut tout. Alors, manifeste-toi. Éternel, nous prions pour les malades. Seigneur, nous savons que tu es venu nous communiquer la vie, mais ta parole nous déclare également que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Ô Éternel, je te prie maintenant de renouveler chacun, de visiter, Seigneur, et d'intervenir pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour ta fidélité. Alléluia.